Radio Kapi. Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, ouverture ce samedi 17 février du 37e sommet ordinaire de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Cette rencontre s'organise sur fond des multiples crises politiques et sécuritaires qui secouent les continents noirs. À Ituri, au moins 16 personnes ont été tuées vendredi par des miliciens incontrôlés de la Codeco à Tali, village situé à environ 40 km au nord de Bounia. Dans les territoires de Djougou, une vingtaine d'autres personnes ont réussi à s'échapper grâce à l'intervention de FRDC. L'invité de ce journal est Maître Rajab Oubou-Tindi Ferdinand, secrétaire exécutif du collectif des journalistes pour la promotion de la démocratie et la défense des droits de l'homme à Kindu. Cette structure appelle les gouverneurs intérimaires Afani Idrissa Mangala de retirer tous les arrêtés autorisant le fonctionnement des associations des jeunes dites « bases ». D'abord, ces nouvelles, nous venons de l'apprendre à Goma. Un obus a été lancé par un drone vers 2h du matin ce samedi à l'aéroport international de Goma. Selon des sources concordantes, une aile de l'aéronef militaire SU-25 a été endommagée par cet obus. Jusqu'à présent, l'armée n'a pas encore communiqué sur cet incident. Et puis, on reste au Nord Kivu, où des affrontements sont encore signalés ce matin entre le FRDC avec l'appui de leurs alliés. Les résistants Wazalendo contre les rebelles du M23 dans la localité de Mweso, groupement Bacha Limokoto, dans les territoires de Masisi. Des sources locales affirment que ce sont les résistants Wazalendo qui ont lancé ces opérations à Mbuhi, situé à moins de 3 km du centre commercial de Mweso, contre les positions du M23. C'est dans un endroit communément appelé Kavumbura, non loin de Bukama. Des tirs à l'arme lourde se font entendre partout dans la localité de Mweso, notamment à Mbuhi, Bushenge et pilote toujours selon nos sources. Par ailleurs, dans le territoire de Nirangongo, au nord de la ville de Goma, un calme précaire est observé ce samedi sur la ligne de front, a indiqué nos sources dans la zone. Comme je le disais au sommaire, ouverture ce samedi 17 février du 37e sommet ordinaire de chefs d'État et des gouvernements de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. La RDC y est représentée par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Cette rencontre qui réunit des chefs d'État et des gouvernements africains s'organise sur fond des multiples crises politiques et sécuritaires qui secouent les continents noirs. En prélude de ces sommets, un mini-sommet sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC a été ouvert vendredi 16 février, toujours dans la capitale éthiopienne. Ces mini-sommets convoqués par le président angolais a, entre autres, évoqué les retours à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et les Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, les retraits immédiats du M23 des zones occupées et les lancements du processus des cantonnements de ces mouvements. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Le président angolais, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et le Rwanda, a indiqué que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats et les conséquences humanitaires et économiques désastreuses pour les populations congolaises. L'objectif de ce sommet, a-t-il ajouté, était de réfléchir ensemble en vue d'obtenir le cessez-le-feu entre la RDC et la M23 et tenter un dialogue direct possible entre les chefs d'État du Rwanda et de la RDC parce que la situation se détériore et il y a risque d'embrasement dans la sous-région de l'EAC et de la SADC. Le chef de l'État angolais tente d'identifier les mesures conduisant à la reprise du processus de pacification dans l'est de la RDC. Il a rappelé que ce processus était très proche d'aboutir, du moins par rapport à l'une des forces négatives opérant en RDC, à savoir le M23, mais qui a malheureusement enregistré un revers majeur ayant conduit à la reprise des hostilités avec toutes les conséquences qui en découlent tant pour les populations locales que pour l'économie du pays. Le chef de l'État angolais a également défendu la nécessité de fournir des efforts pour améliorer les relations entre les peuples frères de la RDC et du Rwanda.
En Ituri, au moins 16 personnes ont été tuées vendredi par des miliciens incontrôlés de la Codeco à Tali, village situé à environ 40 km au nord de Bounia, dans les territoires des Djougou. Selon des sources concordantes, les victimes revenaient d'un lieu de deuil vers Katoto et ont été prises en otage par ces groupes armés qui les ont abattues. Une vingtaine d'autres personnes ont réussi à s'échapper grâce à l'intervention des FRDC. Isaac Remoyopi.
Des dizaines de personnes avaient quitté Largou, Boulé et Tché au début de la semaine pour se rendre dans un lieu de deuil à Katoto, à 18 km de Bounia. Sur le chemin de retour hier vendredi à bord des motos, elles ont été surprises par un groupe de miliciens de la Codeco à Tali, où ils ont érigé une barrière. Ces personnes ont été prises en otage puis abattues par ces hommes armés, affirment des sources de sécurité et des autorités coutumières locales. Leur corps aurait été immédiatement inhumé par ces inciviques. Il y a eu une vingtaine de rescapés qui ont réussi à s'échapper, ajoutent les mêmes sources. Ces derniers ont été acheminés le même vendredi dans leur village d'origine à Largou et Ro par les FARDC. Les miliciens qui ont commis ces tueries revenaient de la localité Lakisre des Cafés, où une dizaine parmi eux ont été tués par le groupe d'autodéfense lors des affrontements entre les deux parties, précise des sources de sécurité. Les FARDC et les casques bleus de la MONUSCO se sont rendus au lieu des drames en vue de retrouver les dépouilles des victimes. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Toujours à Bounia, la MONUSCO a remis vendredi au gouvernement les projets agricoles de réinsertion des ex-combattants de la milice Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, FPIC, et leurs dépendants. Situés à Nyakoundé, à 45 km au sud de Bounia, dans les territoires d'Irumu, ces projets de culture puis de transformation des maïs a produit pour la première récolte environ 60 tonnes de maïs sur 40 hectares cultivés, notamment par des ex-miliciens. Le gouverneur militaire de l'Ituri a félicité ces jeunes et les autres membres de la communauté locale pour leur adhésion à ces processus de paix. Jean-Claude Lokidile a assisté à la cérémonie.
700 personnes, parmi lesquelles des miliciens qui se sont désolidarisés de leur groupe armé, ainsi que leurs dépendants, ont produit en l'espace de 6 mois près de 60 tonnes de maïs frais. Pour le gouverneur de l'Ituri, c'est un bel exemple que Tinekili Majadis, reconnu comme le bastion de la milice FPIC, soit transformé en un chantier agricole du lieutenant-général Johnny Luboya.
Le maïs que vous voyez là-bas, c'est un maïs qui vient de Tinekili. Là où jadis personne ne pouvait accéder, là où on disait qu'il y avait la violence, voilà aujourd'hui c'est du maïs qui vient de là. Et ça vraiment, je tiens vraiment à en remercier et à les encourager.
Une initiative de la MONUSCO bien accueillie par Baraka Malali qui s'est désolidarisé de son groupe armé FPIC en devenant l'un des superviseurs de ce projet en qualité d'agronome.
Nous sommes satisfaits à voir les jeunes qui étaient en train de chômer. Pour nous, il y avait beaucoup de besoins. Les problèmes de scolarisation, des affaires, on a remercié tous les partenaires.
D'après le coordinateur de l'ONG RAD, Réseau des associations pour le développement durable, qui a exécuté ce projet, les violences qui étaient commises, surtout sur l'axe Bounia-Komanda, ont sensiblement diminué depuis l'intégration de ce milicien dans ce projet. De retour de Nyakoundé, Jean-Claude Lucky, d'Ile Radio Okapi.
À Beni, la MONUSCO a séparé le vendredi 16 février dernier 10 enfants de l'armée sur les 73 jeunes de la dernière vague venus de Rwindi dans les territoires de Rutshuru et qui sont cantonnés au camp militaire des Mambango. C'est à une dizaine de kilomètres de Beni. C'était au cours d'une séance d'identification de ces jeunes qui ont manifesté la volonté d'intégrer l'armée après s'être échappés du recrutement forcé de la rébellion du M23 dans les territoires de Rutshuru et Masisi. Certains enfants affirme avoir assisté à plusieurs scènes de tuerie de leur père ainsi qu'à d'autres exactions. Des explications avec vous, Blaise Makassi.
Ces 10 enfants, tous des garçons et dont l'âge variait entre 15 et 17 ans, figuraient sur la liste des jeunes qui sont en attente pour la formation militaire avant leur intégration au sein de l'armée. Cet enfant âgé de 16 ans affirme s'être échappé des mains de M23 au niveau de Bushanga, dans les territoires de Masisi.
Nous étions en train d'élever des chèvres. Les M23 sont venus et ont récupéré mes amis. J'ai réussi une balle perdue à la main lorsque j'ai tenté de prendre fuite. Mais ils ont exécuté mes amis avant de les enterrer.
Cet autre rescapé, venu de Mweso, s'est échappé alors que le M23 voulait les recruter des forces au niveau de leur établissement scolaire. Nous étions à l'école et les M23 sont venus. Ils ont commencé déjà à récupérer les élèves par force. C'est lorsque moi et d'autres amis, nous voulons nous échapper, que nous avons rencontré un groupe de rebelles. Ces derniers ont tiré sur l'un d'entre nous qui voulait s'échapper et il est mort sur le champ. Ils sont partis avec nous et nous avons passé 2 jours avant d'avoir l'occasion de nous échapper. C'est ainsi que j'ai décidé, même si je suis encore élève, je dois intégrer notre armée. D'autres jeunes venus du territoire de Rutshuru parlent des travaux forcés auxquels ils étaient soumis après leur recrutement. Ils appellent le gouvernement à s'impliquer pour rétablir la sécurité dans leur milieu d'origine. La MONUSCO, à travers sa section de la protection de l'enfant, a remis ses 10 enfants auprès d'une organisation locale partenaire de l'UNICEF pour les suivi avant leur intégration dans la communauté.
Politique, l'informateur désigné par le chef de l'État, Augustin Kabuya, a débuté ses consultations en vue de l'identification de la majorité parlementaire. Une consultation tente avec tous les partis et regroupements politiques de la majorité et de l'opposition. C'est dans ce cadre que les partis Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito, parti de l'opposition, a été reçu hier vendredi par l'informateur. Selon Maître Blanchard Mongomba, secrétaire général de ces partis, dans ses échanges avec Augustin Kabuya, les deux parties se sont mises d'accord sur certains points concernant la bonne marche du pays. On écoute les explications de Maître Blanchard Mongomba au micro de Jacques-Yves Molima.
L'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito et sa délégation du Nouvel Élan ont présenté justement ce qu'ils ont en termes de réforme, c'est-à-dire ils ont esquissé le programme que l'ancien Premier ministre avait présenté pendant toute la période de la campagne électorale. Et nous avions également suivi la présentation de la mission de l'informateur et les deux parties se sont mis d'accord autour d'un certain nombre de points par rapport à la marche de la République, par rapport aux réformes que nous devons engager pour faire avancer la République. Et pour le reste, je crois que nous réservons la primeur à l'informateur, puisque, comme vous le savez, selon l'article 78, il est appelé à présenter le rapport de sa mission au président de la République. Et nous pensons que, lors de cet exercice, il va devoir décliner le contenu de tout ce qu'il va avoir auprès de chaque délégation qu'il est en train de recevoir.
Au Kwango, les agents et inspecteurs de la territoriale montent au créneau pour dénoncer leur mise à l'écart après 9 ans de service par les récents arrêtés du ministère de l'Intérieur. Ces agents payés par l'État congolais se disent lésés de voir que de nouvelles figures ont été nommées au détriment de tous les anciens. Dans un mémorandum lu à l'issue d'une manifestation devant les gouvernorats, ces agents exigent leur titularisation et appellent le ministre des tutelles à rectifier les tirs afin qu'ils rentrent dans leurs droits. Les points avec Irène Mbomaluzolo.
Ces agents et inspecteurs de la territoriale de la province du Kwango affirment avoir travaillé depuis plus de 9 ans pour les uns et 7 ans pour les autres sur base des commissions d'affectation signées par les autorités d'antan. Selon eux, ils sont surpris de se voir écartés dans les récents arrêtés signés par le patron de l'intérieur Peter Kazadi qui vient de nommer de nouvelles têtes en l'air des faveurs. Dans un mémorandum, ces agents et inspecteurs territoriaux qui disent aussi être payés par l'État congolais appellent ces derniers à les rétablir dans leurs droits.
Nous avons été affectés par le chef du corps comme inspecteur itinérant AI. On nous a toujours demandé de patienter. Nos autorités directes sont animées de mauvaise foi. Ils ont induit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, en erreur en lui transmettant des listes que nous qualifions de fictifs. Ce que nous réclamons, c'est être titularisé, nommé comme inspecteur de la territoriale. L'inspection de la territoriale du Kwango regorge plus ou moins 105 de tout cet effectif. Aucun n'est repris dans cet arrêté. C'est pourquoi nous réclamons nos droits.
Signalons que ces agents et inspecteurs de la territoriale du Kwango ont organisé jeudi un sit-in devant le gouvernorat à Kengeville pour dénoncer leur mise à l'écart. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et puis, troisième jour ce samedi de la ville morte à Kalemie. Les activités commerciales sont toujours paralysées. La FEC Tanganyika qui a décrété la ville morte est en pourparlers depuis ce vendredi avec les gouvernements provinciaux pour trouver une solution. Les opérateurs économiques dénoncent la multiplicité des services qui font la tracasserie au port de Kalemie. C'est le cas de l'OCC. Les points avec Paulin Munanga.
L'Office congolais de contrôle fait partie des services qui sont autorisés à œuvrer au port de Kalemie. Cependant, les opérateurs économiques qui ont déclenché la ville morte à Kalemie mettent dans un même sac l'OCC parmi les services tracasseurs. Ils accusent certains agents de l'OCC de prendre par exemple une quantité considérable de marchandises comme échantillons au moment où il n'y a pas de laboratoire d'analyse dans le Tanganyika. Témoignage des opérateurs économiques.
OCC,
si vous achetez par exemple 5 cartons d'allumettes à $75, l'OCC prélève des échantillons, mais il n'y a pas de laboratoire et nous n'avons jamais eu des résultats. Si par exemple vous remettez une caution à un service quelconque, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore en règle, mais au moment où vous vous acquittez et que vous êtes en ordre, on doit vous remettre votre caution. Mais cela fait 4 ans que l'OCC ne retourne jamais des cautions. Contacté, le chef d'agence de l'OCC Tanganyika n'a pas voulu s'exprimer à ce sujet. Signalons qu'au troisième jour de la ville morte à Kalemie, quelques conséquences se font déjà sentir. Avec la fermeture des stations-service, le prix du litre d'essence est revu à la hausse. Cela a une incidence sur les prix des transports en commun. Kalemie, Ponemunanga, Radio Okapi.
Au Nord Kivu, les services d'hygiène et d'assainissement de la ville de Goma a procédé mercredi dernier à la destruction d'une importante quantité de viande de porc. Il s'agit de 24 bêtes en provenance du Rwanda, passant par les postes frontaliers dénommés Petite Barrière, que ce service a jugé impropre à la consommation. Chris Moukant pour les détails.
Cette cargaison de bêtes interceptées par le service d'hygiène et d'assainissement de la mairie de Goma a rapidement été écartée de la circulation afin de mettre la population à l'abri d'éventuels désagréments. Le chef de poste de l'hygiène animale à la frontière avec le Rwanda confirme l'entrée dans la ville de cette viande qui n'a suivi aucune procédure de vérification des conformités et d'ajouter que ce lot a été détruit avec la collaboration des services de la mairie. Des dispositions idoines ont rapidement été prises et la viande suspecte a été acheminée à la périphérie de la ville où elle a été incinérée puis ensevelie sous terre. La même source renseigne que le commerçant qui a déjoué la vigilance des services à la frontière a été interpellé afin de répondre de sa conduite délictuelle. Par ailleurs, l'inspection du service urbain de la pêche et de l'élevage appelle à la vigilance la population et les tenanciers des boucheries. Elle affirme être ouverte à quiconque pour tout renseignement et toute orientation sur les mesures de conservation de la viande, ceci dans le but de préserver la population contre les zoonoses. Goma, Chris Mukand, Radio Kapi.
Actualité internationale.
La Cour suprême des Nations unies a rejeté vendredi une demande de l'Afrique du Sud d'imposer les mesures urgentes pour protéger Rafah dans la bande de Gaza, tout en soulignant également qu'Israël doit respecter les mesures antérieures imposées fin janvier dans le cadre d'une affaire de génocide historique. La Cour internationale de justice a déclaré dans un communiqué que la situation périlleuse à Rafah exige la mise en œuvre immédiate et efficace des mesures provisoires qu'elle avait ordonnées le 26 janvier.
L'invité.
Notre invité dans cette édition du journal nous vient de Kindu, dans la province du Maniema. Il s'agit de Maître Rajabu Butindi Ferdinand, secrétaire exécutif du collectif des journalistes pour la promotion de la démocratie et la défense des droits de l'homme. Cette structure appelle le gouverneur intérimaire Afani Idrissa Mangala de retirer tous les arrêtés autorisant les fonctionnements des associations de jeunes dites base. Maître Rajabu Butindi Ferdinand s'entretient ici avec Florence Kizalunga.
Monsieur Rajabu Butindi Ferdinand, bonjour.
Bonjour Madame Florence Kiza.
Pourquoi vous demandez aujourd'hui au gouverneur intérimaire de la province du Maniema de retirer son arrêté portant fonctionnement des associations de jeunes communément appelées BAS?
Madame, c'est avec beaucoup plus d'amertume que nous constatons dans la ville de Kindu. Il y a la multiplicité de la délinquance juvénile, surtout des différents jeunes qui se trouvent dans les différents coins de la ville de Kindu. Et comme vous constaterez avec moi, il y a plusieurs mois qu'on a déjà enregistré dans la ville de Kindu. Nous avons pu commencer nos démarches, soit en disant que nous allons attaquer ces décisions au niveau de la cour d'appel. Avant que cela nous arrive, nous sommes dans l'obligation de conscientiser l'autorité provinciale pour qu'elle revienne en raison pour qu'elle retire sa décision. Mais à notre niveau, nous sommes une structure en train de prendre beaucoup plus la valeur de l'homme. Voilà pourquoi nous venons beaucoup plus auprès de vous négocier, demander au gouverneur des provinces d'appliquer la loi numéro 004 de 2001 du 20 juillet 2001 portant disposition générale applicable aux associations sans but lucratif sportifs et aux établissements d'utilité publique. Et comme vous allez beaucoup plus analyser à son article 7, et ça dit quoi, Madame Florence? Les statuts de l'association sans but lucratif ne peuvent contenir aucune disposition contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Mais si vous constaterez avec moi, certaines bases qui se trouvent dans la ville de Kindu sont contrairement aux lois de la République démocratique du Congo.
C'est-à-dire, pour vous, ces bases déjà dégénèrent?
Évidemment, parce que vous constaterez avec moi, les bases-là n'ont rien à faire avec le développement de la ville de Kindu, à part orchestrer les morts, à part orchestrer la délinquance. Et voilà pourquoi nous, étant que cette structure qui prend beaucoup plus la vallée de l'homme, nous venons beaucoup plus que le gouverneur applique également son article 23 de cette même loi. Parce que cette loi autorise également au ministre de la Justice, mais aussi au gouverneur des provinces, de retirer, de prendre une décision de suspendre les activités d'une association qui arrive à réaliser l'ordre public. Mais aussi, vous constaterez avec moi, c'est pas seulement trouble à l'ordre public, il y a beaucoup de choses que nous, étant population, nous sommes en train de déplorer.
Par exemple, quoi, maître Radjabon?
Vous pouvez constater qu'il y a eu la mort de M. Patrick. C'est pas seulement la mort de Patrick. Nous avons eu constaté la mort de notre confrère Dido Kakisingi. Il y a les autres, il y a aussi les messieurs de la cité.
Mais qu'est-ce qui vous garantit que ce sont ces jeunes-là, de ces bases, qui ont tué ces gens-là?
Madame, nous nous sommes lancés dans l'investigation. Et nous avons beaucoup plus même des preuves que ces gens de base, ce sont des bases qui sont à la base de ces fléaux que nous commençons à enregistrer dans la ville de Kindu. Et je vous l'ai dit, il y a même déjà une plainte de certains cabinets d'avocats qui sont déjà déposés au niveau du procureur général pour que le procureur général puisse s'en saisir directement de ce dossier. Et nous aussi, nous n'allons pas accepter que ce dossier passe inaperçu. Voilà pourquoi nous demandons la volonté du gouverneur des provinces pour qu'il puisse retirer ses décisions. Moi, je peux considérer ces décisions comme décisions bidons. Pourquoi ces décisions bidons? Ce sont des décisions vides. Parce qu'il est entouré par les juristes. Comment ces juristes-là peuvent l'accompagner dans les horaires? Mais c'est inadmissible. Mais à son niveau, étant qu'autorité provinciale, il doit revenir en raison.
Est-ce que vous avez eu d'abord le temps de rencontrer l'autorité provinciale pour échanger avec lui avant que vous ne puissiez lui demander de retirer ses décisions?
C'est rare des gens, lorsqu'on demande audience, on vous dit qu'il est toujours occupé. On arrive une fois, deux fois, si on n'en part ici, on doit que passer dans la vitesse croisière. Maintenant, voilà pourquoi nous venons encore beaucoup plus dénoncer aux hommes des médias, pour que cela soit fait par sa volonté. Si cela n'est pas fait, il va tirer toutes les conséquences juridiques.
Vous dites que le gouverneur va tirer toutes les conséquences. Et du côté population, vous êtes aussi d'accord avec la population que vous puissiez demander au gouverneur de retirer ses arrêtés? La population est d'accord avec toi?
Je pense que la population est à 100% avec moi. Tout ce que je suis en train de demander, c'est pour le bénéfice de la population. La population ne doit pas accepter que Patrick puisse mourir. La population ne peut pas accepter que Maître Dido Kassigny puisse partir. Mais la population peut accepter qu'on constate qu'il y a construction des ponts. La population peut aimer s'il y a déjà l'entretien des routes de cette agricole. Mais si cela arrive au contraire, la population ne doit pas acclamer. Voilà pourquoi il y a certains politiciens qui ont été sanctionnés par cette même population parce que leur sens de gérer n'était pas bon.
Maître Radia Boubutindi Ferdinand, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie, Madame Florence Kizalunga.
Et c'est la fin de ce journal, mis en onde par Polydor Basunga, sous la supervision et coordination de Martin Sebujangwe et Jacques-Yves Molima. Patience Ngalula à la présentation. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Radio Kapi.